Chut. Qu'est-ce qui est tapis sous les feuilles?
Si j'étais une princesse,
je serais punaise.
Mais punaise, elles parlent pas, elles sont très très discrètes. Elles bougent pratiquement pas, elles sont planquées sous la surface, sur la face inférieure des feuilles, elles attendent en fait. Enfin, elles sont en train de se nourrir, hein. C'est essentiellement des phytophages, donc des piqueurs suceurs de sève. Mais on dirait une princesse, Garia Fiasolanis. Et cette petite princesse, elle va se battre bec et ongles si il y a un prédateur qui attaque ses œufs, quoi. Donc ça suscite de l'émotion.
Derrière le feuillage de la forêt tropicale se cache la voix émue d'Éric Guilbert. Si j'étais un naturaliste du 21e siècle, je serais...
Ils inspirent beaucoup quand même des insectes.
Éric Guilbert.
Ils inspirent sur le vol, sur la manière de se nourrir, sur les structures qu'ils ont sur le corps pour s'adapter à leur milieu. Enfin, de l'enseignement de la nature, on a tout à apprendre, quoi, tout. Alors après, on parle des insectes, bien évidemment, mais les plantes nous apprennent des choses sur les constructions, sur la manière de gérer la température, l'humidité. Les espèces nous apprennent comment gérer aussi leur déplacement. Enfin, on a tout à apprendre.
Le Nouveau Monde, sur les pistes du vivant. Portrait grandeur nature de naturaliste du 21e siècle. Ce souffle, c'est celui des grandes découvertes et des expéditions scientifiques du 18e siècle à aujourd'hui. Depuis près de 250 ans, naturalistes et systématiciens parcourent le monde à la découverte de sa faune et de sa flore. Si les séquenceurs de génome ont remplacé les planches et les fusains, la diversité du vivant ne cesse de nous étonner. Les chiffres donnent le vertige. Pour 2 millions d'espèces déjà décrites par la science, on estime encore de 8 à 30 millions le nombre d'espèces toujours inconnues. Alors, qu'est-ce que l'histoire naturelle aujourd'hui? Comment exerce-t-on le métier de naturaliste? Quelle émotion ressent-on lorsqu'on découvre une nouvelle espèce? Pour y répondre, vite, embarquons, avec notre curiosité comme boussole, mettons le cap sur l'aventure et allons explorer de nouveaux mondes. Éric Guilbert, 3e escale, l'émotion de la découverte. Dans ce 3e épisode, il est question d'une rencontre en haut des grands arbres de la forêt tropicale. Un véritable conte de fées. Les princesses, Gargaphia solaris et Tingis chazoé. De magnifiques punaises qui peuvent se transformer en guerrières, déterminées à défendre leurs petits. Le prince, notre entomologiste, Éric Guilbert. Mais comment a commencé cette histoire?
Ah, ça c'est un accident ça. Parce que, comme les films de Cousteau m'ont marqué, beaucoup marqué, donc je voulais absolument avoir ma calypso et mon bonnet rouge. Et donc du coup j'ai fait Océano. Et quand j'ai cherché une thèse, j'ai pas trouvé de sujet sur la mer. On m'a proposé un sujet sur les insectes de la canopée, et j'ai dit banco. Et finalement, je suis pas déçu du tout.
Vous avez changé complètement de milieu naturel, là.
Ah, complètement, ouais. Donc je me suis dit, les forêts, finalement, c'est très très sympa. La mer, c'est pas grave, hein, j'irai en vacances faire de la plongée.
Et c'était la mer qui vous attirait? C'était le milieu ou c'était le côté aventure de Cousteau?
C'était le côté aventure, découverte. J'étais persuadé qu'il y avait dans la mer beaucoup de choses encore à découvrir. Et finalement, il y en a tout autant à découvrir en forêt. Plus facile d'accès, parce qu'affréter un bateau, c'est pas le même coup que partir avec un sac de cordes sur le terrain. Donc voilà, c'est un peu différent. Mais après, la démarche scientifique est exactement la même. Qu'on travaille sur les baleines, sur les insectes ou sur les microbes du sol, c'est la même démarche, en fait. Le milieu change, donc les techniques changent, mais c'est tout.
Et quelles espèces vous avez découvert, vous? Est-ce que vous avez des noms à nous donner de votre grande famille?
Bah, au bout de 20 ans, oui, il y en a quelques. Des espèces décrites, il y en a pas mal. Tingis chazoé, voilà.
Position. Forêt calédonienne.
Latitude.
165 degrés est.
Longitude.
21 degrés sud.
Tingis chazoé, c'est une des premières espèces que j'ai décrites. Elle vient de Calédonie. Saint-Ingis, c'est un groupe assez vaste. Chazoï, parce que le chercheur qui m'accompagnait sur le terrain, qui s'occupait de moi, si je puis dire, qui m'a mis le pied à l'étrier, voilà, on va dire ça comme ça, sur le terrain en Calédonie, il s'appelait Jean Chazot. Et donc, je lui ai bien évidemment dédié cette espèce.
Vous avez une grande liberté dans la nomenclature, c'est intime.
Ah ouais, ouais, on remercie les collègues quand même, c'est un minimum, non ? Chazoï, parce que du coup, comme c'est en latin, il a fallu le latiniser. Et donc, voilà, Jean Chazoï, il a sa petite espèce qui vient de Calédonie, que j'ai dû décrire en, je sais pas, 93, 94, je ne sais plus. Et c'est une des premières espèces que j'ai découvert. Alors, justement, cette espèce, elle vient de la canopée. Mais à cette époque-là, enfin du coup, du temps de ma thèse, on ne grimpait pas aux arbres. Donc pour récupérer les bêtes de la canopée, on les gazait. C'est-à-dire qu'on avait des espèces d'énormes canons à insecticides et on gazait la forêt. Et on faisait tomber tout un tas de trucs.
Donc vous les tuiez.
Ah mais on était des killers. Mais des killers. En fait, c'était des hécatombes.
J'imagine qu'il n'y avait pas que les espèces que vous vouliez récupérer. Quoi.
C'était... Non, justement. Alors après, le but, c'est d'optimiser le gazage de la forêt en distribuant l'ensemble des groupes aux différents experts. Mais pour revenir à Chazoï, du coup, j'ai décrit une espèce, je ne savais absolument pas d'où elle venait, puisqu'elle avait été gazée. Et en fait, je suis retourné en 2005 sur le terrain, justement avec ces nouvelles techniques de grimpe, dans l'idée de monter aux arbres et de retrouver cette espèce pour savoir finalement d'où elle venait. Quel arbre ? Qu'est-ce qu'elle y faisait ? Est-ce qu'il y en avait beaucoup ou pas ? Est-ce que c'était dans les mêmes forêts ou...
Donc, ça, c'est tous les questionnements que vous vous posez quand vous êtes sur le terrain.
Oui, oui, bien évidemment.
Face à une nouvelle, nouvelle espèce.
Là. Oui, bah, pour dire qu'une découverte en amène forcément une autre. Parce que, bon, qu'une nouvelle espèce, elle s'appelle Tingis chazoï, bon, super, génial, on a une espèce de plus. Et quel intérêt ? Donc, du coup, là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir savoir comment vit cette bête, où elle est, comment elle s'intègre à l'écosystème, qui la mange, qu'est-ce qu'elle fait ?
Est-ce que vous pouvez nous en faire le portrait physique, la morphologie, comment, à quoi elle ressemble ?
Bah, c'est des punaises, donc ils ont un rostre à l'avant, hein, une espèce d'appareil piqueur-suceur qui leur sert à se nourrir, puisque c'est des phytophages, hein, ils sucent la sève des plantes. Un insecte, hein, 6 pattes, 2 paires d'ailes, une paire postérieure, arrière, qui est diaphane, qui est toute petite, qui sert au vol et qui est assez fine. Et une paire antérieure, donc devant, qui est beaucoup plus coriace et qui sert justement à protéger les ailes du vol.
Et alors, on les trouve où ? On les trouve
ces insectes ? On les trouve partout où c'est vert en fait. On peut en trouver en forêt, mais en pleine rase,
sur les troncs, sur les feuilles,
au niveau des racines. Voilà, elles se baladent sur les plantes et elles se nourrissent des plantes. Donc elles sont sur ces plantes de toute façon. Alors elles volent très mal et peu. C'est essentiellement le vent qui va les faire voler, qui va les pousser.
Et pourquoi elles volent ? Est-ce que...
Bah, elles se dispersent à la recherche de plantes hautes pour se nourrir, pour la reproduction, pour toutes les fonctions vitales de l'espèce. Elles se déplacent. Et alors après, ce qui fait leur particularité à cet ingite, c'est la structure hyaline réticulée. On appelle ça la punaise dentelière, parce que les ailes, essentiellement les ailes, elles ont une structure sous forme de polygone transparent qui leur donne comme de la dentelle. C'est de la dentelle. Et elles ont aussi des formes sur le pronotum, c'est-à-dire les épaules, et sur la tête, enfin, ils ont une espèce de capuchon qui, des fois, peut prendre des proportions énormes par rapport à la taille de la bête et recouvrir l'ensemble de la bête. Comme ces élytres, ces ailes antérieures, elles ont des fois des tailles, elles sont 2 à 3 fois plus larges que la taille de l'abdomen en dessous. Alors, on ne sait pas trop pourquoi elles ont toutes ces formes bizarres et voire extravagantes, mais les ailes, par exemple, quand elles sont beaucoup plus larges que le corps, elles servent pour beaucoup d'espèces à protéger les œufs. Et même les larves, les petites larves, vont se regrouper sous la femelle. Alors ça dépend des espèces, hein. Il y a des espèces qui n'ont pas du tout ces formes-là et qui vont du coup pondre des œufs, mais des œufs éparses. Elles vont les planquer en fait, parce qu'elles ne vont pas les protéger. Donc il y a des stratégies différentes.
Et quels sont leurs prédateurs ?
L'essentiel des prédateurs, ce sont d'autres espèces d'insectes, alors d'autres punaises. Il y a beaucoup de punaises qui sont des prédatrices et qui vont prédater donc ces tingides. Ce qui se déplace très lentement, c'est des bêtes calmes. Enfin, c'est pas des nerveux, les nettingides.
Il y a des punaises plus nerveuses.
Ah ouais, il y en a qui bougent dans tous les sens. Ben, les prédateurs sont ultra rapides souvent et ils fondent sur leur proie comme un tigre.
Position.
Guyane, réserve naturelle nationale des nourrages. Sommet des grands arbres.
Altitude.
40 mètres.
Latitude.
52 degrés ouest.
Longitude.
4 degrés nord.
Gariafa aussi, c'est un grand groupe, c'est un gros genre qui regroupe beaucoup d'espèces. Elles sont distribuées en Amérique du Sud et un petit peu en Amérique du Nord, mais essentiellement en Amérique du Sud. Et alors elles ont la particularité d'avoir justement cette structure-là. Tingis chazoui, c'est une espèce qui n'a pas ces structures-là. Elle a des formes discrètes. Gariafa solanis, c'est l'inverse. Elle a des formes extravagantes sur le corps et essentiellement ces espèces d'élytres, enfin donc d'ailes antérieures, très très larges. Et donc beaucoup de ces espèces, dont Solanis, pondent leurs œufs en groupés, et elles protègent les œufs avec leurs élytres. Alors elles protègent les œufs avec leurs élytres, une des prédateurs, ça c'est sûr, parce qu'on a des vidéos de ces petites bêtes en train de se battre, en train de défendre leurs œufs contre un prédateur.
Comment ? Avec leurs ailes ?
Ben, elles se mettent en face comme ça, puis elles lèvent les pattes, elles bougent les antennes. Enfin, elles ont des structures très fines, ces bêtes-là. Donc, on dirait des princesses. Donc, évidemment, à côté d'un gros mastar qui se pointe avec, pour bouffer la progéniture, elles font ce qu'elles peuvent. Et cette petite princesse, elle va se battre becs et ongles si y a un prédateur qui attaque ses œufs, quoi. Donc, ça suscite de l'émotion. Mais il y a autre chose qu'on a remarqué sur ces bêtes, c'est que quand il n'y a pas de prédateur, elles ont les ailes qui vibrent. Et ça pourrait être une manière de réguler la température dans des milieux chauds. Un milieu tropical peut être très très chaud ou très humide. Et donc les ailes peuvent avoir un rôle de régulateur sur les pontes pour éviter la dessiccation.
Peut-être que c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer aussi.
Bah, je suis sûr que dans la construction, cette structure hyaline, cette structure réticulée, elle a forcément un rôle. Elle a forcément un rôle dans la nature. Elle pourrait être une inspiration dans la construction, dans le bâtiment. Ou dans les vêtements, pourquoi pas.
Mais oui, pour se réguler soi. Ah oui, ça serait bien. Même pour le Covid, un mètre de...
Je suis sûr que ce capuchon, ces espèces de... Ça s'appelle des paranotas, ces espèces de d'ailettes au niveau des... Comme des épaulettes larges et diaphanes. Je suis sûr que ça a un rôle. C'est pas possible que ça existe comme ça pour rien. Sans être finaliste ou déterministe, je sais pas comment on dit. Mais oui, ça pourrait être de la bio-inspiration pour les vêtements. Je suis sûr que... En plus, ça serait tellement joli. Ses ailes. Et on voit là, au-dessus de la tête, cette espèce de capuchon. Et sur les épaules, on voit ces espèces d'épaulettes là, ces espèces de lames, de lamelles très larges, qui dépassent le corps. Alors ça, la fonction de ces structures-là, on ne la connaît pas.
D'accord. Ouais, il y a plein de questions encore.
Mais voilà, ça ferait une belle cape quand même. La classe, non ?
C'était Le Nouveau Monde, sur les pistes du vivant. En compagnie de l'entomologiste Éric Gilbert. Troisième escale, l'émotion de la découverte. Le Nouveau Monde est un podcast original du musée Buffon en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a été réalisé par Marie Casanova.